Bonjour et bienvenue sur Radio Tropique et dans cette nouvelle émission de Résonance. Nous vous invitons à partager le regard vigilant que nous portons à l'égard de ce qui s'éveille sur les initiatives, les éclats, les utopies, les mutations à l'œuvre dans le champ de la création contemporaine et sur ce qui fait que la création vit, bouillonne, se développe au quotidien. Je suis accompagné pour cette nouvelle émission par Josy Josserand, Lucien Guérinel et Simon Deborne à la technique. Au sommaire de notre émission d'aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, chers auditeurs, depuis la reprise de cette émission en septembre dernier, nous avons choisi d'associer à celle-ci des correspondants réguliers établis dans notre région et à l'étranger que nous accueillons avec intérêt et grand plaisir au sein de notre émission car nous désirons que celle-ci soit justement un espace de rencontre et d'expression, de débat, de croisement à travers le partage de regards, d'opinions, de réflexions plurielles. En effet, les mêmes faits sont regardés de manière différente, chaque regard entraînant des interprétations qui induisent des solutions différentes, des avis ou postures différentes. Et cette diversité, cette multiplicité, cette pluralité-là nous intéresse et nous désirons la partager avec tous et toutes celles qui s'intéressent à la vie artistique et culturelle. Alors cette émission d'aujourd'hui laissera une grande part à ses correspondants, correspondantes aussi, et nous aurons le plaisir de retrouver dans un premier temps Cécilia Devarine, médiatrice culturelle, chargée du développement culturel à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon, avec laquelle nous évoquerons les activités et les projets, puis nous nous rendrons en Suisse, à quelques pas d'ici, à Genève, pour rencontrer Kay Pastor, artiste plasticienne, et qui, à travers l'atelier des Mille et Une Feuilles, travaille à la mise en place de visites adaptées aux personnes en situation de handicap sur la ville de Genève. Enfin, par l'intermédiaire d'Amandine Gillet, l'une de nos correspondantes dans le Rhône, nous rejoindrons Sylvain Raymond, étudiant de première année du CFMI de Lyon, qui nous fera partager l'expérience qu'il mène avec des patients de la masse du Vinatier à Bron. Et puis, bien sûr, un nouvel épisode de notre feuilleton radiophonique imaginé, réalisé par Simon Deborne, avec qui j'ai le plaisir d'effectuer la réalisation de la présente émission sur Radio Tropique. Mais, comme d'habitude, nous allons retrouver notre rubrique « Paroles d'auteur, paroles de compositeur ».
J'aime à me laisser porter par les hautes vagues de plus d'un poème symphonique, mais ce qui sollicite le plus directement ma mémoire, ce sont les bouffées d'accords que m'envoient à travers les murs de ma chambre les pianos épars dans les maisons, qui m'atteignent comme une écume et dont je ne sais plus s'ils sont manœuvrés par les hommes ou s'ils m'appellent de l'au-delà. Léon-Paul Fargue. Si terrible que soit la vie, l'existence de l'activité créatrice sans autre but qu'elle-même suffit à la justifier. Le jeu, évidemment, paraît au premier abord le moins utile de nos gestes, mais il en devient le plus utile dès que nous constatons qu'il multiplie notre ferveur et nous fait oublier la mort. Éliphore.
Et en écho, justement, à ces deux paroles d'auteur, je vous propose justement d'entendre une œuvre pour piano de José Evangelista, compositeur espagnol mais qui réside depuis de nombreuses années aussi à Montréal au Canada, et qui nous propose, je vous propose un extrait des Monodias Españolas avec Louise Bessette au piano. Thank you. Je trouve que là aussi, c'est une belle parole qui s'exprimait sous les doigts de cette pianiste Louise Bessette à travers l'œuvre de José Evangelista, extrait des Monodillas Españolas. Et tout cela pour nous permettre effectivement de rentrer maintenant dans le sommaire de notre émission. Et nous allons avoir le grand plaisir de retrouver à l'antenne Cécilia de Varine. Bonjour Cécilia.
Bonjour Alain.
Ça va bien ?
Ça va, ça va pas mal.
Grand plaisir de vous retrouver. Je rappelle juste à nos auditeurs, je le faisais dans le sommaire de l'émission tout à l'heure, que vous êtes médiatrice culturelle et chargée du développement culturel à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon. Et si je peux dire ça un petit peu comme ça rapidement, il se passe quand même beaucoup de choses à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Alors, J'en cite deux, trois. Il y a maintenant une feuille d'information culturelle, le souffle de la grenade. Il y a des lectures en coin, des temps de lecture partagés ouverts à tous. Il y a, on en parlera peut-être aussi un peu plus, des soirées qui s'organisent notamment autour de Francis Janson tout prochainement, là, le 12 mars prochain.
Exactement.
Hein, autour de la projection d'un film et autour de cet itinéraire d'un intellectuel très engagé aussi. Alors on y reviendra. Puis il y a des partenariats autour de concerts et autres. Donc une très, très, très riche, Cécilia, activité, voilà, on s'était parlé il y a déjà quelque temps où les choses se mettaient en route au sein de l'hôpital, mais là on sent qu'il y a, si je peux parler, on peut parler de vitesse de croisière qui se met en place.
Ouais, j'aimerais bien ça. J'ai l'impression que tous les jours il y a des nouveaux projets, alors.
Donc bon, ça, en fait, c'est pas mal.
On est encore dans l'accélération, je ne sais pas jusqu'à quelle vitesse justement nous traverserons l'Atlantique. D'ailleurs, c'est drôle que vous me disiez ça parce que on a la dernière lecture en coin, on a lu des textes de Camus.
Ah ouais.
Voilà. Et dans les textes de Camus, il y en a un que je ne connaissais pas, qui fait partie d'un recueil qui s'appelle L'été, mmh. et qui est un texte que je trouve vraiment très beau, de petits passages où en fait il est sur un bateau et il fait une grande traversée. Ah. Donc voilà, la vitesse de croisière est là-dedans.
Et là-dedans aussi. Donc voilà. Du coup, peut-être tout ce tissage, parce qu'on imagine bien, pour refaire un peu des retours rapides, on sait que voilà, tout le développement de l'activité culturelle et artistique au sein des hôpitaux, notamment au travers du programme Culture à l'hôpital, bien sûr, s'enracine depuis de nombreuses années, mais encore, on va dire, les postures que vous occupez au sein de cet hôpital, médiatrice culturelle, chargée de développement culturel, ce sont des postes qui ne sont pas toujours présents dans tous les hôpitaux. Donc on peut imaginer aussi que des postes comme ceux-ci sont à la frontière de plein de paramètres et qu'il n'est pas forcément toujours évident de pouvoir faire ce tissage, en tout cas.
Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que ce sont des postes un peu complexes. D'abord parce qu'effectivement, on est à la naissance un peu d'un métier, on pourrait dire.
Je crois, ouais.
Sachant que c'est un métier, bah d'ailleurs le métier de médiateur culturel, parce que c'est ça vraiment, je pense, le vrai métier d'origine, mais c'est un métier qui est fait d'adaptation permanente.
C'est
quoi.
Ça.
Et je pense pas qu'on fasse exactement la même chose quand on est chargé de développement culturel dans un hôpital psychiatrique, dans une grande agglomération comme Lyon, et quand on est dans une maison de réhabilitation fonctionnelle, dans une petite commune rurale. Donc on est forcément dans des enjeux pas toujours les mêmes, dans des contextes très différents, les patients ne sont pas du tout les mêmes, les temps, les durées d'hospitalisation non plus, etc., etc. Donc là, moi, je suis dans un hôpital psychiatrique avec des gens, du coup, autour qui sont quand même très motivés. C'est-à-dire qu'autour de moi, j'ai des médecins, des infirmiers, pour qui la question de l'art et de la culture, ça fait longtemps qu'ils s'en préoccupent. Et il y a depuis bien longtemps des ateliers artistiques, par exemple, au sein de l'hôpital, dans le cadre du soin.
C'est ça.
Donc il y a déjà une vraie tradition, et moi, j'arrive, et simplement, on me demande d'être de faciliter des nouveaux projets, de faciliter le développement de certains projets, et puis peut-être, et j'ai cru le sentir, de participer à une sorte de vie poétique au sein de l'hôpital.
C'est ça.
C'est-à-dire comme si par ma présence aussi, je pouvais réinsuffler des projets un peu décalés par rapport à une organisation qui est devenue très très stricte en fait au fil des décennies, quoi.
C'est ça. Et vous sentez que ça commence un peu, alors je vois quand il y a cette feuille d'information par exemple, il y a une troisième, c'est le troisième numéro hein qui je crois vient de sortir. Comment ça se passe dans, par exemple, avec cette feuille d'information, certains y participent, elle fait état de l'activité, j'imagine, qui est en perspective ou en projet ou en train de se réaliser dans l'hôpital, ou s'ouvre à d'autres choses également?
Ouais. Alors tout à fait. Alors je la fais très seule. Hein. C'est vraiment moi. D'accord. Là, c'est moi qui rassemble des informations, qui à chaque fois. Alors je fais valider hein, les choix à mon directeur et à mon comité d'action culturelle. Mais c'est quand même moi qui rédige un petit peu chaque petite partie à partir de ce qui m'est donné par les uns et les autres.
C'est ça.
Alors l'idée, c'est vraiment de rendre compte de cette espèce de fourmillement, voilà, de choses très diverses. Hein, à la fois effectivement des ateliers avec quelques patients au sein d'une unité de soins, une programmation culturelle qui commence à s'étoffer dans l'institution avec des concerts ouverts sur les visites, sur les spectateurs extérieurs aussi. Donc ce qui va créer une sorte de dynamique.
Ça, vous sentez que du coup il y a une dynamique qui est en train de se créer avec ceux qui viennent de l'extérieur justement attirés par ces programmations.
C'est d'ailleurs assez intéressant parce que le dernier concert qu'on a fait, c'était fin janvier, c'était un dimanche après-midi. On est beaucoup, comme on a de petits budgets aujourd'hui pour ce type d'action, on reste beaucoup sur aussi des propositions d'échange avec des compagnies ou des groupes de musique. Et donc là, il s'agissait d'une chorale qui a proposé en échange d'un lieu de répétition, et bien effectivement de nous donner un concert à la fin d'un stage de répétition. Et on avait fait quelques affiches, et puis voilà, j'envoie au Progrès, au journal Le Progrès, voilà les informations pour qu'ils puissent les diffuser. On a eu quand même, on avait 50% des gens qui étaient des gens qui venaient du quartier ou au-delà.
Ah oui.
Donc ça, c'est assez intéressant.
Ça, c'est intéressant, effectivement.
Ouais. Et alors, je savais, on me l'avait dit en arrivant, qu'il y avait un regret des gens du quartier, parce qu'il y a eu, il y eut un temps à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu où il y avait une belle programmation musicale, menée par un médecin qui s'appelle Mohamed Atia, mais qui maintenant est à la retraite.
Oui, effectivement.
Voilà, et qui avait mené des projets assez ambitieux, hein. Il avait accueilli
Jordi Savall. Voilà, c'est ça. Je me souviens de tels invités de haute pointure, quoi.
Voilà. Alors, je n'en ai absolument pas les moyens aujourd'hui, moi, mais ceci dit, je pense que ça avait donné une sorte d'appétit, de désir, voilà. À la fois en interne auprès des salariés qui étaient très fiers en fait de travailler dans une institution en capacité de mobiliser de telles personnalités et en même temps au niveau du quartier, de la ville, etc. Donc voilà, on m'a un peu demandé de relancer quelque chose qui serait voilà alors on sera pas sur Jordi Savall pour l'instant, on va attendre un tout petit peu, mais
oui, puis ça peut se passer à des échelons différents, ça peut jouer sur d'autres là il y avait ses propositions je dirais plus de concerts traditionnels entre guillemets, mais qui peuvent être une manière aussi d'aller peut-être à d'autres frontières esthétiques, d'aller vers d'autres types de rencontres, qui peuvent parler aussi à des gens d'un quartier. Et je trouve que ce qui est intéressant, alors c'est pas nouveau aussi, mais ce qui est intéressant, c'est dans le phénomène urbain, on pouvait faire des constats à certains moments donnés que quelquefois l'hôpital psychiatrique, l'institution médico-sociale ou autre, dans un territoire donné, et qui pouvait être peut-être plus l'ordre du rural, par exemple, pouvait être le seul élément, on va dire, culturel important du secteur, et dont du coup beaucoup de gens vivant sur ce territoire et bien sûr étaient attentifs ou profitaient justement et saluaient, comme vous venez de le dire, par rapport à cette programmation plus ancienne à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, mais voilà, s'accrochaient à une activité culturelle importante dans le territoire parce que peut-être il y avait rien d'autre. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup il y aura un phénomène aussi de cet ordre-là au niveau du quartier, dans une ville. Ça, c'est intéressant dans la recherche finalement d'une action culturelle de proximité, finalement.
Ouais, tout à fait. Alors c'est exactement là-dessus qu'on travaille en ce moment. On essaye de faire un peu plus corps avec le quartier environnant. Alors là, je travaille beaucoup sur l'intra-hospitalier parce que les hôpitaux psychiatriques ont aussi beaucoup de structures extra-hospitalières qui sont réparties sur d'autres territoires, d'autres communes, d'autres quartiers. Mais là, je parle vraiment de l'hôpital au sein du quartier du Moulin à Vent à Lyon, qui est un quartier très déserté d'un point de vue et culturel et même socio-culturel. Enfin, voilà, il y a une vague petite antenne d'une MJC. Alors, il y a des projets d'avenir, mais pour l'instant, ils sont pas là. Et on sent qu'il y a pas de Saint-Jean-de-Dieu est de très loin la plus grosse institution du quartier. Donc, on est un peu comme effectivement un territoire rural. On est quand même dans le 8e arrondissement, mais on est très loin à pied et c'est très mal desservi de la Maison de la Danse, des gros pôles comme ça culturels. Alors, on n'est pas très loin du Nouveau Théâtre du 8e, mais on n'est pas tout près non plus, il faut y aller presque à pied parce qu'il n'y a pas de bus qui le dessert, donc c'est toujours assez, voilà, donc on est un peu dans un territoire un peu de côté, comme ça un peu au bord de la ville qui n'a pas beaucoup de ressources, et du coup voilà, nous on va essayer aussi de se relier à ce territoire, parce que c'est un territoire qui vit avec l'hôpital au quotidien, il y a vraiment des patients qui sortent, qui se baladent dans le quartier, qui font la manche, qui font les fous, qui etc, donc il y a une sorte de proximité avec la vie de l'hôpital, et en même temps plutôt subie aujourd'hui que vue comme quelque chose qui peut être moteur. majeur. Mmh. Alors après, il y a aussi un deuxième type de réflexion qui intéresse la médiatrice culturelle que je suis, c'est que je me demande quelquefois, quand je vois des gens du quartier arriver pour un concert, s'il n'est pas plus facile pour certaines personnes de passer la porte d'un hôpital pour aller écouter un concert que celle d'un musée ou d'un lieu de concert.
Ça, c'est intéressant, en tout cas, comme réflexion, ça.
Voilà, c'est une hypothèse, hein, j'en sais rien, je ne l'ai pas vérifié. Mais je suis frappée du nombre de gens qui viennent.
C'est ça. C'est ça. Et là, on voit bien l'importance, justement, d'avoir une offre, si on peut parler aussi, mettre ce terme, mais en tout cas, qui semble peut-être trouver la porte d'entrée, justement, pour que ces gens-là osent franchir cette autre porte qu'est celle, de l'hôpital psychiatrique, en tout cas.
Oui, alors c'est ça qui est étonnant.
Ça, c'est étonnant.
En même temps, voilà, l'hôpital psychiatrique peut totalement effrayer, enfin,
tout à fait.
Et que là, il y a quelque chose qui se passe assez simplement, les gens coexistent très simplement dans les spectateurs, enfin les chaises, voilà. Ça se passe plutôt très bien. Moi, j'ai jamais vu un seul petit souci. Je trouve qu'il y a un grand respect mutuel. Et voilà. Et puis après, les gens ressortent absolument. Enfin, les gens ressortent enchantés, là, je parle de ceux du quartier qui sont venus.
Ouais.
Ou même au-delà du quartier. Il y a des gens qui sont venus du 7e arrondissement.
Ah oui.
Je reçois des petites lettres adorables de vieilles dames du quartier disant j'aimerais bien être informée, j'ai vu ça dans le Progrès trop tard. Enfin.
Ouais.
Donc, il se passe des choses assez douces. Enfin,
Et dans ces choses douces,
dans ce monde un peu d'offres culturelles, comme vous dites, un peu marketing, un peu tapageuse, un peu je sais pas quoi. Là, tout d'un coup, une sorte de petite douceur où voilà, du coup, on s'autorise aussi à être sur des pratiques amateurs, sur des formes aussi plus simples.
Et du coup, j'imagine que les lectures en coin, par exemple, là aussi, ça doit être propice à aller aussi dans ce tissage, à le matérialiser aussi.
Alors, les lectures en coin, pour l'instant, je crois que personne n'est venu de l'extérieur.
Ça reste interne.
Alors, oui, ça reste interne. Et j'avoue que j'ai moins fait de communication que pour... Voilà, j'en vois pas au Progrès,
bien sûr.
Lectures en coin. Voilà, j'en vois quelquefois de temps en temps un peu au réseau culturel ou par le Souffle de la Grenade, mais c'est quand même, ça reste... En fait, c'est un espace très fragile, les lectures en coin. Ça se passe dans la cafétéria des patients, entre 1h et 2h, une fois par mois. C'est un petit rendez-vous et pour l'instant, on tient beaucoup à rester dans la cafétéria des patients malgré le fait que c'est totalement inconfortable puisqu'il y a un boucan fou. Mais en fait, on y tient parce que c'est un lieu très simple, justement, très que les patients ont complètement adopté, enfin, se sont complètement appropriés. Donc pour eux, c'est pas un problème d'en passer la porte, alors que je sais que si on va dans une autre salle, etc., ça sera... Voilà, un effort supplémentaire. Là, on arrive, on prend son café en même temps qu'on fait la lecture, on est une quinzaine. Moi, j'ai préparé des textes, je les propose à tous ceux qui sont là. Ceux qui veulent lire, lisent. Ceux qui veulent écouter, écoutent. Ceux qui veulent faire les deux, font les deux. Et on se retrouve tous à égalité, c'est-à-dire il n'y a plus de patients, soignants, administratifs, etc. Il y a des gens qui ont envie de partager des textes. Et voilà, et c'est très modeste, c'est-à-dire que voilà, moi qui viens d'un musée ou un musée prestigieux, musée des Beaux-Arts, voilà, on s'autorise pas des formes comme ça dans ce genre de lieu.
Mais ça, je trouve ça très sympa, quoi. En tout cas, cette simplicité finalement, et puis cette rencontre toute simple, ce partage tout simple. Aussi,
voilà, exactement. Et est-ce que ça peut pas commencer là aussi, le partage culturel, quoi. Voilà.
Tout à fait.
Voilà,
c'est pour ça que je pense que la réflexion que vous posiez tout à l'heure, elle me semble bigrement importante et peut-être même urgente, notamment à tous ceux et à toutes celles qui se trouvent en responsabilité dans des lieux culturels, à revisiter, enfin qui sont pris quelquefois dans d'autres types de dynamiques, et que peut-être de retrouver justement peut-être la simplicité et l'essence même de ce que peut-être la rencontre, sur quoi elle repose, que c'est peut-être là que ça devrait pouvoir aussi se travailler et se réfléchir que effectivement uniquement sur un aspect un peu communicationnel ou événementiel.
Et voilà.
Et on sent qu'on touche à des dimensions différentes. Et je pense que du coup, je repense au prochain événement là qui va avoir lieu aussi chez vous là le 12 mars prochain. C'est une manière aussi de nourrir la réflexion en faisant une soirée, en programmant une soirée autour de Francis Janson, un intellectuel aussi très engagé avec la projection d'un film et puis qui j'imagine aussi enchaînera sur une discussion. C'est une manière aussi de venir nourrir, d'une part construire des partenariats, j'imagine avec
le
cinéma par exemple, comédia, et c'est un peu aussi il y a une politique, je dirais un peu comme ça, de construction avec certains acteurs qui s'intéressent à aller peut-être dans les dimensions que vous venez de dépeindre et à construire aussi avec vous.
Alors voilà, c'est un peu ce qu'on essaye de voir, de vérifier avec cette soirée qui serait un peu le début de quelque chose qui pourrait un peu renaître entre des membres de la société civile, on va dire. Hein. J'espère, même si quand même le sujet est un peu psychiatrique finalement, mais que quand même il va y avoir des gens justement de l'action culturelle ou du champ social élargi, on va dire, qui peuvent s'intéresser à cette soirée-là, parce que il nous semble que l'histoire, en fait, il se trouve que Francis Janson, donc qui a été largement oublié. Moi-même, je vous avoue que je n'en avais, je crois, jamais entendu parler avant que mon directeur me demande de monter cette soirée. Donc vraiment, et pourtant, c'est un peu l'ancêtre de mon métier. Hein, voilà. Donc du coup, ce Francis Janson, qui a été connu essentiellement parce qu'il avait été porteur de valises pendant la guerre d'Algérie, donc très mal vu des autorités françaises, et donc très inquiété à la fin de la guerre d'Algérie, a développé une pensée, une réflexion avec aussi Jean-Paul Sartre en son temps, mais après de façon plus indépendante, autour notamment de l'action culturelle ou de la place que pouvait jouer la culture dans la vie de la cité et dans le lien entre les hommes et dans le lien entre les gens autour de pratiques culturelles partagées et co-construites, quoi, pour le dire un peu avec des mots d'aujourd'hui.
Oui.
Il se trouve qu'un médecin de l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu assiste un jour à un temps de travail à la maison de la culture de Chalon-sur-Saône où était Francis Janson et est absolument fasciné par la capacité de Janson à faire émerger des questionnements collectivement, à faire parler les gens, à les mettre tous à égalité autour de la table, etc. Et du coup l'invite à Saint-Jean-de-Dieu dans une période où la psychiatrie est en plein changement, où les hôpitaux s'ouvrent, où la psychiatrie de secteur se développe encore plus, où on crée ces centres médico-psychologiques, ces centres d'accueil thérapeutique dans les quartiers pour que les gens soient pris en charge au niveau de leur quartier et de leur cité, et qu'ils retrouvent aussi une citoyenneté en même temps qu'ils reconstruisent progressivement leur santé. Et donc Francis Janson va énormément contribuer à faire vivre au sein de l'hôpital une dynamique entre professionnels de réflexion qui va même aboutir au développement de la formation des infirmiers psychiatriques.
Donc on voit vraiment toute l'importance de sa démarche et de l'impact jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui. Il a laissé un souvenir incroyable au sein de l'hôpital, quoi. Donc voilà, là c'était un peu l'occasion, parce qu'il y a eu, ce film a été réalisé en 2012, plus par rapport à l'anniversaire de la guerre d'Algérie que par rapport à...
Voilà, c'est plus en lien que par rapport à ça.
Voilà, mais le film rend très bien compte des différentes facettes du personnage, des différentes facettes de son engagement, et notamment de la partie sur Saint-Jean-de-Dieu. Donc on voulait un peu profiter de ce film-là, pour peut-être aussi contribuer à renouveler la mémoire sur Francis Janson.
On peut rappeler que c'est Catherine de Grissac et Bernard Vrignon qui ont réalisé ce film.
Exactement.
Qui du coup s'intitule Francis Janson, itinéraire d'un intellectuel engagé. Hein, on voit aussi que... Voilà, toute cette place aussi importante que lui ont réservée. Et bravo à ces deux personnes, justement, de redonner vie à quelqu'un qu'on avait largement oublié par rapport à tout l'impact que vous venez de soulever, Cécilia.
Et
cet engagement.
Alors, c'est vrai on s'est beaucoup interrogé sur la façon dont on allait mener le débat. C'est-à-dire, est-ce qu'on était dans simplement une commémoration, en quelque sorte, en disant, voilà, on invite que les gens qui ont été témoins de son passage à Saint-Jean-de-Dieu ou d'autres témoins de Francis Janson, et puis on fait quelque chose comme ça, ou est-ce qu'on profite de ça pour poser des questions sur notre actualité, dans les questions qui se posent aujourd'hui, et notamment au sein d'un hôpital psychiatrique dans la ville. Et il y a des grosses questions qui se posent aujourd'hui, comme à toutes les générations, bien sûr. Sur que devient un patient quand il retourne chez lui, comment est-ce que la ville est en capacité d'accueillir cette personne et de retisser du lien autour de lui, par qui est-il pris en relais, comment est-ce qu'il y a un tissage entre ces différents relais les uns après les autres, enfin, toutes ces questions un peu d'accompagnement de la personne bien au-delà des limites de ce qui autrefois s'appelait un asile, mais vraiment de retrouver comme ça une sorte de fluidité entre l'intérieur et l'extérieur de l'hôpital psychiatrique, on avait envie de l'interroger aussi au vu des difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui et qui semblaient vraiment importantes pour les trois personnes que j'ai invitées à intervenir. Qui sont des questions sur presque la question professionnelle, c'est-à-dire en quoi aujourd'hui on peut, d'où le titre du débat, liberté individuelle et intelligence collective, en quoi aujourd'hui, dans notre façon de penser nos vies professionnelles, qui sont beaucoup plus, on va dire, individualistes qu'il y a quelques décennies.
Oui, tout à fait.
On a un rapport à la profession, surtout dans des institutions, dans des grosses institutions comme ça, où les gens, une fois qu'ils sont sortis du boulot, ils sont sortis du boulot. Ils n'y reviennent pas pour justement à débattre pendant un week-end entier comme ça se faisait dans les années 70, avec un philosophe sur la question de la folie et de la mort, mort et de la vie, ils sont chez eux, ils n'ont pas forcément envie de mélanger trop le privé du public, ils ont envie de garder vraiment des poches individuelles comme ça, et puis il y a ces espèces de référencements individuels à la morale, etc. Est-ce que avec cette individualité, individualisation professionnelle, on arrive quand même à construire une intelligence collective? Et comment cette individuation, elle est aussi une ressource pour changer de pratique aussi collective? Voilà.
Ça, c'est vraiment pertinent et bigrement intéressant. Je pense ce que je propose, justement, Cécilia, c'est que, du coup, ce rendez-vous a lieu le 12 mars prochain. Nous aurons le 26 mars prochain une autre émission en direct.
Ouais.
Et je trouve que ça serait peut-être vraiment intéressant de saisir, d'être en rebond, de se rappeler à nouveau pour faire justement peut-être... Alors peut-être en cernant justement sur cette dernière partie de notre échange, sur un petit peu peut-être les grandes lignes qui seront, qui auront peut-être émergé de ce débat, de cette discussion qui me semble vraiment pertinente et intéressante. Hein ?
Pourquoi pas ? C'est une très bonne idée. Ouais.
Hein ?
On note le rendez-vous.
On note donc ce rendez-vous, cher auditeur, pour poursuivre. Et, je l'indiquais dans notre sommaire, toute l'importance pour nous justement d'avoir des correspondants réguliers ou régulières avec lesquels on peut justement approcher différents points de vue et toucher à des thématiques comme celle de la liberté individuelle et intelligence collective. Là, je crois qu'il y a une thématique très forte et tout ce que Cécilia vous venez de nous indiquer peut que nous encourager justement à approfondir justement un peu tous ces questionnements qui tournent autour de cette thématique. Hein. Eh bien, un grand merci. Alors, Cécilia, c'est un plaisir à chaque fois de converser avec vous.
Merci beaucoup de votre invitation régulière.
Non, mais c'est un plaisir. Et puis, nous faisons comme cela.
D'accord.
On se dit donc dans une bonne quinzaine de jours, au travers de notre nouvelle émission là de fin mars, et on fera écho de ce débat et de ce qui aura émergé aussi de toute cette réflexion commune.
Eh bien, super.
Merci, Cécilia.
À bientôt.
À très bientôt.
Bonne journée.
Merci, au revoir.
Voilà,
et du coup, nous allons poursuivre justement au cours de notre émission ces rencontres avec ces correspondantes, puisque la prochaine que nous avons à avoir le plaisir d'accueillir à l'antenne, qui est Pasteur, elle se situe dans un pays voisin, la Suisse. Donc là, on va être dans une relation transfrontalière et cela nous réjouit aussi beaucoup parce que ce territoire est proche, les manières aussi d'approcher les choses, la réflexion, comme on vient de l'entendre, je pense que il y aura des préoccupations, en tout cas, entre les territoires. On vient d'entendre Cécilia de Varine à Saint-Jean-de-Dieu, dans une grosse ville métropole qu'est Lyon. Et on va voir aussi avec Quai Pastor sur Genève, que je crois qu'il y a aussi des préoccupations communes. Et là, il y a importance de faire les ponts, il y a importance de tisser les passerelles. Et modestement, notre émission, elle essaye justement de faire ce lien, justement, entre tous ces acteurs très fortement impliqués sur le terrain. Et je crois que nous allons pouvoir, la technique me fait signe que Quai Pastor est en ligne. Bonjour Quai.
Bonjour Alain, bonjour.
Grand plaisir de vous accueillir pour la première fois dans notre émission Résonance. Tout va bien à Genève ?
Tout va bien à Genève, le soleil brille.
Bon, en tout cas, on avait déjà une correspondante à l'étranger avec Alma Zani, qui se trouve, elle, pour sa part, en Italie, du côté de Reggio Emilia, et que nous avons régulièrement en ligne dans cette émission. Et on inaugure avec vous aujourd'hui, Quai, sur la Suisse et aussi tout votre engagement. Alors, redire simplement que vous êtes artiste et plasticienne,
oui.
Et puis qu'en même temps, vous avez mis en place l'atelier des mille et une feuilles justement là-bas et que dire aussi que vous êtes très engagé aussi dans un accès aux pratiques artistiques pour tous notamment vis-à-vis des personnes en situation de handicap au sens large et que justement au travers de cet atelier des mille et une feuilles et puis vous allez pouvoir nous en dire un petit peu plus sur un mandat aussi du département de la culture et des sports de la ville de Genève vous participez justement à faire que toutes ces institutions culturelles, que ce soit les musées, que ce soit le théâtre, que ce soit l'opéra, à essayer de faciliter, en tout cas à faire que tous ces acteurs culturels, d'une part, se préoccupent de l'accès de ces lieux, mais en même temps, qu'à certains moments donnés, il y a besoin aussi d'accompagner ces acteurs culturels pour mieux accueillir justement ces personnes en situation de handicap ou différentes.
Oui, exactement. Alors, depuis 3 ans, avec le service de la promotion culturelle de la ville de Genève, nous mettons en place un programme de entre 6 et 8 visites annuelles dans les institutions culturelles de la ville. Mmh. Et puis, nous avons vu que nous accueillons des groupes qui sont particulièrement hétérogènes, dans lesquels il y a des handicaps très très différents. Mmh. Alors notre projet se concentre sur le handicap mental. Et à l'intérieur de ces groupes, nous avons des demandes très différentes. Mmh. Et donc, pour répondre aux besoins que chacun a pour entrer en relation avec l'œuvre qu'il va voir, on essaye de proposer des portes d'entrée différentes.
C'est ça.
Voilà. Et donc, on reçoit des groupes qui deviennent, alors c'est une grande joie, qui deviennent de plus en plus importants.
Oui.
Là, on a fait une visite dimanche dernier, on était 25.
Mmh.
Et donc, on scinde notre grand groupe en petits groupes qui vont pouvoir circuler. Alors, s'il s'agit d'un musée, ils vont pouvoir circuler pendant un moment en petits groupes.
Mmh.
Et puis, on va se retrouver à la fin de la visite, tous ensemble, pour faire un atelier. Alors, un atelier où le visiteur va pouvoir restituer son vécu, son avis avis critique sur la visite qu'il vient de voir.
Toute cette démarche alors vous nous indiquez hein, juste il y a quelques instants que ça fait à peu près 3 ans, vous sentez que c'est voilà une j'évoquais tout à l'heure que c'était en lien justement avec la ville de Genève, avec ses départements, il y a une volonté beaucoup plus forte qu'il y a quelques années, justement, de, à la fois des autorités, à la fois des élus, de vraiment se pencher sur la question de l'accès de la culture et de tous ces lieux culturels à ce large public. Vous parliez du handicap mental, mais je sais qu'il se soucie, bien sûr, au niveau du handicap sensoriel également. Vous sentez, voilà, dans votre position à vous d'aujourd'hui, là, vous êtes impliqué directement aussi auprès de ces services par rapport à ces choses-là, mais votre sentiment de ce côté-ci?
Alors oui, il y a vraiment une volonté tout à fait ferme. Là, à Genève, on a un projet culture et handicap qui se développe en 3 volets. Donc pour les personnes sourdes, les personnes aveugles, et moi je suis responsable de ce programme pour les personnes avec un handicap mental. Mais ce que je peux mesurer, c'est la volonté de la part des visiteurs.
C'est ça, parce que ça, c'est également très important.
Voilà, c'est extrêmement important. Donc, on a commencé il y a 3 ans avec des groupes qui étaient de l'ordre de 8-10 personnes. Et puis, comme maintenant, de bouche en oreille, on commence à connaître notre programme, on a des groupes qui sont bien plus importants. Et puis, on a pu aussi fidéliser un certain nombre de personnes qui viennent vraiment à chaque visite.
Et vous parliez qu'à un moment donné, à l'issue de la visite, il y a ce temps un petit peu de partage, et justement où la critique individuelle, enfin le regard de l'individu venant de parcourir quel que soit le lieu culturel, finalement, je me souviens aussi que vous m'aviez évoqué, mais on en parlera dans quelques instants, que certains avaient pu assister à la création de l'opéra de Fénelon, justement, aussi autour de Jean-Jacques Rousseau. Comment réagissent, je dirais, les acteurs culturels avec ce regard un peu critique, finalement, de ces personnes? Est-ce que ça fait bouger des choses? Est-ce que ça interpelle?
Alors, ce que nous essayons de faire, c'est de ne pas seulement demander l'avis critique du visiteur, mais d'aussi convoquer un public pour prendre connaissance de cet avis. Et ces avis sont souvent différents.
Oui.
Très très originaux, et pour ma part je pense que c'est extrêmement intéressant et enrichissant de pouvoir partager ces avis qui vraiment sortent de l'ordinaire.
De l'ordinaire.
Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de... Alors, jusqu'à présent, on a fait une exposition en fin d'année où on peut exposer toutes ces différentes choses. Mmh. Et puis là, cette année, on a une approche un petit peu différente où on est en train de construire... une page Facebook, notre compte Twitter, lien avec notre site internet, où tous ces avis vont pouvoir être publics et être lus.
Et ça, c'est extrêmement important, ce partage justement de ces réflexions, et l'ouvrir, le faire circuler, le faire partager au plus grand nombre.
Voilà. C'est vraiment enrichissant. Ce sont des points de vue différents qui me semblent être particulièrement enrichissants pour la collectivité.
Là, vous parliez donc des personnes impliquées et qui participent à ces visites.
Et qui participent aux visites, oui.
Voilà. Et comment, justement, peut-être les professionnels, plutôt peut-être du médico-social, finalement, de l'autre côté, de là, peut-être pour certains, j'imagine, peut-être certains sont peut-être dans la ville de manière individuelle, d'autres viennent aussi d'institutions. Est-ce que voir ces personnes s'intéresser de plus en plus à toutes ces choses, voir leur implication, voir... leur expression critique vis-à-vis de ces choses, ça fait bouger aussi quelque chose dans leur rapport à la culture, par rapport à ces personnes bien évidemment, mais aussi à la dominante culturelle.
Oui, je pense que de visite en visite, quelque chose se construit. Mmh. Peut-être que l'avis des uns et des autres sur la nécessité pour toutes ces personnes de participer à la vie culturelle est en train de changer. C'est en tous les cas ça fait partie de notre travail de montrer à quel point c'est enrichissant pour tout le monde que ces personnes participent à la vie culturelle de la cité.
Alors il y a quelques temps, là, je disais rapidement là tout à l'heure, vous avez pu faire qu'un petit groupe assiste à la création du dernier opéra de Fénelon à l'opéra de Genève.
Oui.
Et je crois que j'aimerais bien que vous nous relatiez ça pour nos auditeurs, qu'il y a eu des correspondances justement avec Fénelon. Vous avez pu entretenir justement entre son projet de création avant ce moment d'assister justement au théâtre de Genève à cette création. Voilà, il y a eu échange entre le compositeur et un certain nombre de ces participants actifs.
Exactement. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons annoncé que nous irions voir ce spectacle au mois de septembre dernier. Nous l'avons annoncé vraiment bien avant, en début d'année.
C'est ça.
Et nous avons fait trois ateliers, trois rencontres autour de cet opéra que nous allions voir. Donc, nous avons pu aller à l'opéra en étant vraiment des spectateurs tout à fait au courant.
Au courant, avertis finalement de qu'est-ce qui allait se passer.
Voilà, c'est ça. Et dans ce processus, on a eu la chance de pouvoir entretenir une correspondance avec M. Fénelon qui a vraiment très gentiment... Et avec beaucoup de précision, participer à notre projet. Et donc, chaque visiteur a pu lui envoyer un certain nombre de questions auxquelles M. Fénelon a répondu. Alors, c'était autour du thème du processus de création.
D'accord.
Alors, y avait des questions très, très variées, mais qui étaient autour de... où il puise son inspiration, à quel moment de la journée est-ce qu'il travaille, combien de temps est-ce qu'il lui faut pour terminer son œuvre, voilà, ce genre de choses.
Oui, là du coup, quand on évoquait tout à l'heure notre précédente invitée avec Cécilia de Varine, voilà cette recherche de proximité, entre celui qui est dans la proposition artistique, mais celui qui vient la voir peut aussi passer dans du fer. Enfin, toute cette richesse de la proximité. Là, je trouve que là aussi, sous un autre mode, il y a cette recherche-là très prégnante.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours la vision d'un cercle où on est spectateur. On regarde l'œuvre d'un artiste, et puis dès qu'on fait notre critique, alors on peut devenir créateur à son tour. Et puis on fonctionne tout le temps dans un cercle comme cela. Alors je ne dis pas que tout le monde est artiste.
Oui, ce qui est une autre question.
C'est une autre question, la question du métier, de la pratique. Mais en tous les cas, en prenant en rebondissant sur l'œuvre d'un artiste, on entre dans une certaine activité qui peut participer à une prochaine œuvre.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà.
Alors, du coup aussi, on aura l'occasion dans une prochaine de vos interventions dans une de nos émissions, vous formez aussi des futurs médiateurs finalement, qui vont pouvoir eux aussi retransmettre.
Oui, c'est ça. Alors, je vous disais tout à l'heure que nos visites, comme on reçoit des groupes assez importants, on circule en petits groupes et ces groupes sont menés par des médiateurs qui sont formés, qui ont une double formation, à la fois artistique et en médiation culturelle, et ils ont une certaine expérience d'être avec des personnes qui ont un handicap mental.
C'est ça.
Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les personnes finalement qui sont les mieux à même de répondre à un certain nombre de besoins, ce sont les personnes concernées. Donc nous avons choisi deux personnes cette année qui ont elles-mêmes un handicap mental et qui vont devenir, qui sont déjà des médiateurs culturels.
Ça c'est passionnant aussi ça. Ça c'est passionnant. Et je crois que ce qu'on pourra faire, Kay, si vous le voulez bien, c'est que lors de notre prochaine rencontre par le biais de cette émission, on pourra converser justement avec ces deux personnes qui sont en formation, déjà acteurs aussi, mais qui peut-être pourront nous faire partager leur regard de jeunes, entre guillemets, médiateurs justement, et toute l'importance peut-être qu'ils voient à travers ce rôle, et aussi pour eux, comment ça les fait cheminer aussi par rapport à individuellement, mais aussi par rapport à la pratique artistique.
Je suis sûre qu'ils seraient absolument ravis de vous parler.
Bon, ben alors on va prendre note aussi de ce rendez-vous. En même temps, c'est une émission à bloc-notes aujourd'hui. On a pris rendez-vous aussi avec Cécilia et on prend rendez-vous aussi avec vous, Kay. Et puis donc, c'est l'un ou de ces deux, ou ces deux, bien sûr, médiateurs, pour que peut-être à la fin du mois de mars, si c'est possible pour vous, qu'on puisse à nouveau se reparler, de continuer nous aussi à faire ce tissage, ce rapprochement de proximité, modestement à travers cette émission, mais justement avec ce territoire tout proche qu'est la Suisse. En tout cas, c'est une aventure très passionnante que vous nous dépeignez, Kay, et qui permet, je pense, aussi de venir nourrir aussi toutes nos interrogations, nos réflexions aussi par rapport, pour tous ceux et toutes celles aussi qui s'intéressent à toutes ces questions et revisiter aussi la place finalement de la culture dans notre société. Alors on va, Kay, en tout cas, merci.
Merci à vous, Alain.
À très bientôt.
À bientôt, alors.
Oui, avec grand plaisir et bonjour à tous nos amis suisses, justement à Genève.
Merci, au revoir.
Au revoir. Et on va faire un petit, justement, une petite continuité dans notre émission, mais là, cette fois-ci musicale, avec la Suisse, avec l'œuvre d'un compositeur genevois, Nicolas Bollens, qui a écrit donc une œuvre pour voix de soprane et piano, une œuvre qui est écrite en 1996 et qui s'intitule Tres Sonetos de Amor et qui est interprétée par Brigitte Hall, soprane, Nicolas Bollens, au piano. Thank you. Voilà, pour cette pièce de Nicolas Bollens, pour voix de soprane et piano, lui-même étant justement au piano. C'était une pièce intitulée « Tres sonetos de amor », trois sonnettes de l'amour. Et nous avons en ligne maintenant notre troisième correspondant, Sylvain Raymond. Bonjour.
Voilà.
Merci d'être avec nous dans cette émission. Et c'est un plaisir de vous avoir. Alors, c'était une manière de pouvoir aussi continuer avec les différents invités que nous avons eus tout à l'heure déjà dans notre émission, dans toutes impliquées justement dans un travail avec des personnes en situation de handicap. Alors je voulais juste rappeler que vous actuellement vous êtes étudiant au centre de formation de musiciens intervenants en milieu scolaire à Lyon et vous êtes en première année et que dans ce cadre-là, et c'était bien sûr sur ce plan-là qu'on souhaitait échanger avec vous et partager ce témoignage, vous intervenez depuis quelques mois déjà auprès de la masse du Vinatier et que vous conduisez avec je crois d'autres musiciens une rencontre musicale avec certains patients justement de cette masse.
Voilà, exactement. Donc vous avez bien résumé l'atelier. Donc effectivement, on est quatre étudiants donc en première et deuxième année du centre de formation des musiciens intervenants de Lyon, intervenir auprès de. Donc on a mis en place cette année un atelier avec des résidents de la masse qui se trouvent être juste à côté du CFMI. Puisque le CFMI de Lyon est justement sur le site du Vinatier.
Voilà, ça c'est une chose originale, puisque c'est l'un des rares CFMI justement qui se trouve implanté à l'intérieur même d'un hôpital psychiatrique tel que celui du Vinatier.
Tout à fait, donc il paraissait tout à fait naturel finalement qu'il y ait des liens entre les structures qui étaient autour avec les structures qui étaient autour du CFMI. Et donc quand Anne-Marie Bastien, donc qui est formatrice au CFMI, nous a parlé de la possibilité de mettre en place cet atelier, donc on a été quatre à répondre à cet appel, sans trop avoir vraiment réfléchi à comment on allait pouvoir mettre ça en place. Et donc on a cherché sur le tas, on a tâtonné, c'est un atelier qui est tout à fait différent de ce qu'on peut mettre en place en milieu scolaire. On n'est pas dans un cadre pédagogique. Donc l'idée c'était de proposer des moments de partage musical, d'être dans le plaisir pour eux et puis pour nous aussi.
Et puis pour vous aussi. Et comment vous ressentez ça avec ces quelques mois de recul, je dirais, là maintenant, dans ce qui était ce présupposé de départ, de rencontrer des patients dont on a un peu moins l'habitude, qui rentrent dans un autre cadre que celui, effectivement, que cette formation va vous habituer à rencontrer après, avec lequel vous allez travailler. Qu'est-ce que ça a fait bouger pour vous?
Je pense que ça a beaucoup évolué depuis les premières séances. Déjà pour eux aussi, je pense qu'ils abordent pas les choses du tout de la même manière. Ils savent parce que c'est vrai que c'est un handicap assez lourd en fait, mental et physique. Maintenant ils attendent cet atelier, ils trouvent tout de suite leur place, ils vont chercher eux-mêmes des instruments.
Quel type d'instruments vous leur proposez?
Alors des petits instruments, petites percussions. Après chaque personne qui participe à cet atelier a son fonctionnement propre. Par exemple, il y a deux participantes qui s'intéressent essentiellement au piano. Et donc qui se dirigent tout de suite vers le piano et qui se font plaisir en écoutant les sons, principalement les sons graves du piano. Voilà, et donc donc effectivement il y a eu une évolution depuis le début. Maintenant ce qu'on cherche à faire c'est d'essayer d'être un peu dans le collectif, et ce qui est un peu difficile finalement avec un handicap aussi lourd. Disons qu'ils sont soit dans leur dans leur bulle, dans leur monde dans leur monde sonore quand ils produisent, soit en interaction avec l'un d'entre nous. Dans l'écoute globale de ce qui peut se produire autour de. En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent aujourd'hui et que les et que l'équipe, on va dire, soignante et l'équipe éducative l'interprète aussi. Donc,
Du coup, ça vous amène, vous, à de fait, on va dire un peu à ces postures hétérogènes, c'est-à-dire vraiment très identifiées, ces identités qui chacune, saisit justement le domaine sonore pour, dire ce qu'il est, et comment vous êtes obligé justement de prendre en compte immédiatement un peu cette vie musicale qui est là, qui émerge, et comment faire que petit à petit elle devienne pratique commune finalement.
Tout à fait. Effectivement, c'est un avantage d'être 4 ou 5 à animer cet atelier, parce qu'on peut être dans une adaptation à chaque personne. Il y en a un, par exemple, qui est très sensible à la voix, et donc quand on lui chante très près de lui, il en est bouleversé, et on sent qu'il a envie de... Enfin, qu'il a un nœud dans la gorge, mais que ça a envie de sortir quand même. mais c'est vrai que... on est dans une addition plus ou moins de relations individuelles, et on a du mal encore à être dans un collectif. Voilà, mais ça avance, et puis
on a des réunions
avec l'équipe, on essaye de réfléchir aussi à ces questions-là avec l'équipe.
Et est-ce que justement cette pratique en elle-même, ces réflexions que vous partagez justement avec l'équipe qui entoure ces différents patients, alors je sais que vous êtes dans le début de votre année de formation, mais est-ce que c'est justement cette expérience-là vous interpelle aussi dans ce que peut-être justement après une séance de musique, enfin une pratique musicale aussi avec les enfants au sein de l'école. Est-ce que ça c'est vous sentez que le fait que vous êtes obligé d'approcher peut-être par des sentiers et des chemins un peu divers, moins conventionnels entre guillemets, si on peut mettre un terme, vous voyez, dans cet aspect-là, est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui peut-être venir questionner dans la manière de faire, ensuite.
Ça fait écho de toute façon à nos pratiques à l'école, même si on n'est pas dans le même cadre, on est dans un cadre pédagogique, mais la notion de l'individuel et du collectif, c'est quelque chose auquel on réfléchit forcément.
Et puis du coup, ces personnes sont dans l'improvisation, si je peux dire, on est dans la spontanéité aussi pour le moment de ce qui est...
Oui, ça fait écho aussi à nos pratiques à nous en tant que musiciens, à notre rapport à la musique, à notre spontanéité musicale, c'est sûr que ça nous questionne à plein de niveaux, ça c'est évident.
Donc ça c'est passionnant, et du coup cet atelier jusqu'à quand va se dérouler ce travail commun?
Alors donc il va se terminer pour cette année scolaire au mois de mai.
Là il va se passer quelque chose, ou est-ce que c'est simplement le cheminement de l'atelier, ou est-ce qu'à un moment donné il va y avoir, quel que soit le public d'ailleurs, à un moment donné où il y a un partage avec un public élargi éventuellement?
Alors, il n'y a pas de restitution en tant que telle qui est prévue. Nous, ce qu'on aimerait proposer, c'est plus une forme de... peut-être de concert que nous, on ferait plutôt au sein de la masse. Alors, je sais qu'il y a le festival qui est organisé par la Serme du Vinatier qui se déroulera au mois de juin. Et donc, nous, on aimerait pouvoir inviter aussi dans ce cadre-là, essayer de poursuivre un peu le... peut-être en dehors des murs du CFMI, justement.
Bien sûr, oui.
Voilà. Mais après, c'est vrai que pour cette première ce premier atelier, ça paraissait difficile d'envisager une restitution, une pression.
Et là, ce qui est important, c'est effectivement cet espace commun qui se construit au fur et à mesure des mois et des séances, la confiance, bien sûr, aussi, qui s'établit entre vous. Et ça, c'est la chose à privilégier et bien sûr à sauvegarder au maximum. Et après, la représentation publique, c'est effectivement un autre stade, d'autres questionnements, d'autres manières de faire. Mais on voit au combien c'est important, je pense, pour des musiciens en formation comme vous, de pouvoir avoir ce lien justement avec ce public-là, de s'aventurer sur ces chemins qui, je pense, peuvent être effectivement très... Alors là, on peut dire formateurs aussi.
Oui, pour... puis c'est vrai que ça nous oblige à être très réactifs
c'est
à ce que l'on propose, ce qu'ils nous proposent eux.
Voilà. À créer un mode d'écoute.
On a beau préparer des choses pour la séance, ça se déroule jamais comme on l'a imaginé. Même si on a toujours une petite appréhension, au final, quand on sort de la séance, on est toujours très content de ce qui a pu se passer, des échanges qui ont pu se dérouler pendant la séance. Donc,
merci beaucoup.
Très belle expérience pour nous en tout cas, et puis j'espère pour les résidents qui participent.
Ça, je pense que oui. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, Sylvain, qui venait tout à fait bien compléter les interventions de nos deux précédentes personnes qui ont apporté elles aussi leur regard sur toutes ces pratiques. Je vous dis à très bientôt en tout cas.
C'est moi qui vous remercie. Hein? À très bientôt, Alain.
Merci encore. Au revoir. Hein? Au revoir. Et chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. Si vous avez envie de réécouter celle-ci, sachez que elle sera rediffusée jeudi prochain de 16h à 17h, puis mardi prochain de 13h à 14h. Vous pouvez bien évidemment vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine pour également la podcaster en faisant le www.resonancecontemporaine.org. Et puis bien sûr, si vous voulez écouter cette émission sur votre radio préférée qu'est Radio Tropique, connaître la grille des programmes, vous pouvez vous rendre également sur www.tropiquefm.org. Merci de nous avoir accueillis chez vous, portez-vous bien et à très bientôt.